Conan Doyle, le chasseur de scarabées. Une curieuse aventure, fit le docteur. Oh oui, mes amis, j'ai eu vraiment une curieuse aventure. J'espère ne pas avoir jamais la pareille, car s'il est contraire à tous les principes de la chance que des événements se produisent deux fois dans la vie d'un homme, vous m'en croirez si vous voulez. Voici à la lettre comment les choses se passèrent. Je venais d'être reçu médecin, mais n'avais pas encore abordé la pratique. Et je logeais en garni dans Gower Street. La numérotation de la rue a changé depuis, mais la maison que j'habitais est la seule avec une bow window à gauche en venant du Metropolitan. Une veuve du nom de MacPherson gérait l'immeuble. Elle avait pour locataire un ingénieur et trois étudiants en médecine. J'occupais une chambre sous les toits, la moins chère de toutes. Et pour qu'elle me coûtât peu, c'était encore plus que je ne pouvais me permettre. Mes pauvres ressources diminuaient à vue d'œil, et je sentais plus impérieusement chaque semaine la nécessité de faire quelque chose. Cependant, je répugnais à l'exercice de la médecine, car tous mes goûts me portaient vers la science, et plus spécialement vers la zoologie, pour laquelle j'ai toujours eu un faible. J'avais presque renoncé à la lutte et me résignais déjà aux misères de l'existence professionnelle quand je me trouvais dans des circonstances extraordinaires, au bout de mes décisions. Un matin, j'avais mis la main sur un numéro du Standard. J'en explorais de ci, de là le contenu, et les nouvelles faisant défaut, j'allais jeter le journal, puis tout d'un coup, en tête de la colonne des annonces, mes yeux rencontrèrent les lignes suivantes. On demande pour un ou deux jours les services d'un médecin, jeune, indispensable, homme vigoureux, maître de ses nerfs, résolu, connaissant l'entomologie et renseigné de préférence sur coléoptères, se présenter en personne aujourd'hui même avant midi, 77 bis Brook Street. J'ai déjà dit mon goût très vif pour la zoologie. L'étude des insectes m'intéressait entre toutes, et j'avais, entre tous les insectes, élu les scarabées. Les collectionneurs de papillons ne manquent pas, mais les scarabées comptent des variétés infiniment plus nombreuses, et chez nous plus accessibles. Ce qui explique que juste tourner vers eux mon attention et former une collection qui comptait bien une centaine de variétés. Quant aux autres particularités requises dans l'annonce, je me savais capable de dominer mes nerfs et j'avais gagné le prix du lancement de poids aux épreuves sportives entre hôpitaux. J'étais l'homme manifestement désigné pour la fonction vacante. Cinq minutes plus tard, un cab me portait vers Brook Street. Chemin faisant, je réfléchissais, tâchant à conjecturer de mon mieux quelle sorte d'emploi pouvait réclamer des qualités aussi singulières. De la vigueur, de la résolution, une éducation médicale et la connaissance des scarabées. Comment se conciliaient entre elles ces diverses exigences? Puis il y avait ceci de décourageant, que la situation, loin d'être stable, dut au contraire prendre fin d'un jour à l'autre. Plus j'y songeais, moins je comprenais. Mais au bout du compte, j'en revenais toujours à me dire que, quoi qu'il arrivât, je n'avais rien à perdre, puisque j'avais épuisé mes ressources que n'importe quelle aventure, même désespérée, venait à son heure, pourvu qu'elle m'apportât honnêtement quelque souverain. On craint d'échouer quand on peut avoir à payer son échec, mais la fortune n'avait rien à tirer de moi en cas d'insuccès. Je ressemblais au joueur des KV à qui on permet encore de tenir la chance. La maison portait le numéro 77 bis de Brook Street. C'était une de ces tristes maisons, mais importantes, beurre, brune de couleur, plate de façade, respectable et solide d'aspect. Où se reconnaît le style des Georges. Un jeune homme en sortait au moment où je descendais du cab et je le vis s'éloigner rapidement dans la rue. Mais j'observais qu'en passant devant moi, il me jeta un regard où la curiosité se mêlait de malveillance. Sa rencontre me parut d'un bon augure, car il avait tout l'air d'un candidat évincé. Et le dépit qu'il ressentait de son échec signifiait sans doute que la place demeurait libre. Je gravis plein d'espoir les larges degrés du perron, et soulevant le lourd marteau de porte, je frappai. Un valet de pied en poudre ivrée vint m'ouvrir. Évidemment, j'avais affaire à des gens riches et de grand monde. « Vous désirez, monsieur ?» interrogea le domestique. « Bien, j'ai lu dans le Standard. Ah, c'est bien. Lord Lynchmere va vous voir à l'instant dans la bibliothèque. » Lord Lynchmere... Je connais seul le nom, mais il ne me rappelait pas pour l'instant rien de précis. Je suivis le domestique et il m'introduisit dans une vaste pièce meublée de livres où était assis, derrière un bureau, un homme de petite taille, à la figure avenante, mobile et soigneusement rasée, avec de longs cheveux gris brossés en arrière. Il m'examina des pieds à la tête, d'un œil malicieux et pénétrant, tout en tenant de la main droite ma carte que le domestique lui avait remise. Puis il sourit avec satisfaction, et je compris qu'extérieurement, du moins, il me savait à sa convenance. « C'est mon annonce qui vous amène, n'est-ce pas, docteur ?»« Hamilton, » demanda-t-il. « Oui, en effet, monsieur. Réplissez-vous toutes les conditions stipulées ?»« Je le crois. »« Oui, vous êtes un homme solide, si j'en juge sur les apparences. »« Ah oui, très solide. »« Et résolu, il me semble. »« Avez-vous jamais su ce que c'est que de se sentir exposé à un danger ?» imminent ? Ah non, jamais. Et croyez-vous qu'en pareil cas, vous auriez de la décision et du sang-froid ? Je l'espère. Et moi, j'en ai la conviction. Ce qui chez vous m'attire surtout de ma confiance, c'est que vous ne prétendiez pas savoir par avance ce que vous feriez dans une situation où vous vous trouveriez pour la première fois. J'ai l'idée que, dans la mesure où des avantages personnels s'imposent, vous réussissez bien l'homme que je cherche. Bon, ceci établi, passons au second point. Lequel ? Parlez-moi des scarabées. Je le regardais pour voir s'il plaisantait. Au contraire, il se penchait avidement par-dessus son bureau. Il avait dans ses yeux comme une angoisse. « Oui, j'ai peur que vous ne sachiez pas grand-chose des scarabées, » cria-t-il. Mais pardon, monsieur, c'est le seul sujet scientifique sur lequel je suis vraiment quelque chose. Oh, j'ai plaisir à vous l'entendre dire. Alors parlez-moi donc des scarabées. Et je parlais des scarabées. Je n'affirmais pas que j'en savais rien de très original, mais j'en déterminais bravement les caractères et brièvement en m'entendant. Et je lui parlais des scarabées. Quoi? Vous ne seriez pas collectionneur, peut-être? S'exclama Lord Richmere. Vous ne voulez pas que vous soyez vous-même collectionneur? Les yeux lui dansaient de joie. Mais alors vous êtes l'homme même que je cherche à Londres. Oh, je pensais bien que parmi 5 millions d'individus, il devait insister 7 hommes. Le difficile, c'était de mettre la main sur lui. J'ai, en vous trouvant, cette chance extraordinaire. Il frappa un gong posé sur la table. Le domestique parut. Priez Lady Rossard de vouloir bien venir jusqu'ici, ordonna-t-il. Peu d'instants après, Lady Rossard entra dans la chambre. C'était une femme entre 2 âges, petite, et qui ressemblait beaucoup à Lord Lichmer, avec sa figure toujours en action et ses cheveux grisonnants. Mais l'expression d'angoisse que j'avais observée chez Lord Lichmer se marquait bien davantage chez elle. On eût dit que l'ombre d'un chagrin voilait ses traits. Au moment où Lord Lichmer me présenta, elle tourna pleinement vers moi son visage et j'aperçus avec une pénible surprise, au-dessus de son sourcil droit, une entaille à demi cicatrisée, longue de 2 pouces. Bien qu'en partie dissimulée par le taffetas, je me rendis compte que la blessure était sérieuse et récente. Evelyn, dit Lord Lichmer, le docteur Hamilton réalise de toutes parts notre programme. Il collectionne les scarabées et leur a consacré plusieurs articles. Vraiment? Dit Lady Rossler. Ah, oh, mais en ce cas, vous avez, je suppose, entendu parler de mon mari. Quiconque s'occupe de scarabées connaît de nom Thomas Rossler. Un faible rayon de jour commença de déchirer pour moi les ténèbres de cette affaire. J'établissais enfin un rapport entre ces gens et les scarabées. Sir Thomas Rosler possédait en l'espèce la réputation du savant le plus autorisé au monde. Il avait fait de l'étude des scarabées l'objet même de sa vie. Et il avait écrit sur ces insectes un ouvrage qui épuisait la matière. Je me hâtais d'assurer Lady Rossler que j'avais lu cet ouvrage et l'estimais dans sa valeur. Connaissez-vous mon mari? Demanda-t-elle. Non, répondis-je. Vous le connaîtrez, intervint Lord Lichmer avec décision. Lady Rossler, debout derrière le bureau, lui mit la main sur l'épaule. Ainsi confrontés, il n'y avait plus de doute qu'ils ne fussent frères et sœurs. Réellement, dit-elle, vous sentez-vous prêt pour ces épreuves, Charles? C'est généreux à vous, mais vous m'emplissez de crainte. Sa voix tremblait d'émotion. Je crus deviner chez lui un trouble égal, nonobstant ses efforts pour n'en laisser rien paraître. Oui, ma chère, tout est réglé, convenu. Et pratiquement, je ne vois d'autre moyen. Bon, il n'y en a certainement pas d'autre. Je ne vous abandonnerai jamais, Evelyne, jamais. Tout marchera bien, allez, convertez-y. Tout marchera bien. C'est comme un décret de Providence dont l'instrument parfait nous tombe dans les mains. Ma position devenait embarrassante. Je sentais qu'on avait momentanément oublié ma présence. Mais Lord Lynchmere revint tout d'un coup à moi et à mon engagement. Ce que j'attends de vous, docteur Hamilton, c'est que vous vous mettiez entièrement à ma disposition. Je désire que vous m'accompagniez dans un court voyage, que vous restiez sans cesse à mon côté, et que vous me promettiez de ne rien faire sans me poser aucune question. Tout ce que je vais avoir à vous demander, si déraisonnable que cela vous semble. Voilà qui est beaucoup exigé, répliquai-je. Impossible, malheureusement, de m'expliquer davantage, car j'ignore moi-même le tour que vont prendre les choses. Rassurez-vous d'ailleurs, je ne vous réclame rien que votre conscience n'approuve. Et je vous garantis qu'au bout du compte, vous aurez quelque fierté d'avoir contribué à une aussi bonne œuvre. Et en supposant que tout finisse bien, dit Lady Rossler. Oui, c'est juste, en supposant que tout finisse bien, répéta Lord Lynchmere. Et les conditions? Demandai-je. 20 livres par jour. L'énormité du chiffre me stupéfia, et sans doute mon visage trahit ma surprise. « Mais vous n'auriez pas manqué, dit Lord Lynchmere, d'être frappé à la lecture de mon annonce pour la rare combinaison de qualités qu'elle exige. Des dons si variés veulent qu'on les paye tout leur prix. Et je ne vous cacherai pas, vous aurez une tâche ardue, sinon même dangereuse. Je peux d'ailleurs que 2 jours suffisent pour tout être terminé. Oh, plaise à Dieu, soupira la sœur. Ainsi, docteur Hamilton, puis-je compter sur votre aide? N'en doutez pas, répondis-je. Vous n'avez qu'à me dicter mon devoir. Et d'abord, vous allez rentrer chez vous, faire un paquet de tout ce que il vous faut pour le séjour de peu de durée à la campagne. Nous partons ensemble de la gare de Bendington cet après-midi à 3h40. Et nous irons loin, jusqu'à Pangourne. Revenez, rendez-vous à 3h30 devant la bibliothèque. J'aurai nos billets. Au revoir, docteur Hamilton. À propos, il y a 2 choses que j'aimerais pouvoir emporter, si vous les avez. En premier lieu, votre collection de scarabées, puis une canne, la plus grosse et la plus lourde possible. On pense bien que je ne lassais pas de me livrer à 1000 réflexions depuis l'instant où je quittais Book Street jusqu'à celui où je retrouvais Paddington. À Paddington, Lord Lynchmere. Toute cette fantastique affaire prenait dans mon cerveau 1000 formes kaléidoscopiques et je m'en donnais une bonne dizaine d'explications, toutes plus grotesques et improbables les unes que les autres. Pourtant, je sentais que la vérité devait elle aussi avoir quelque chose de grotesque et d'improbable. Finalement, je renonçai à tous mes efforts pour trouver une solution et me contentai d'exécuter fidèlement les instructions reçues. Muni d'un sac à main, de la boîte contenant ma collection et d'une canne plombée, j'attendais devant la bibliothèque de la gare lorsqu'arriva Lord Lynchmere. Je le trouvais plus petit encore que je ne l'avais cru, frêle et maigre, et dans un état de nervosité visiblement accru depuis le matin. Il portait un ulster de voyage épais et long, et tenait à la main un solide gourdin en bois de prunier. J'ai les billets, dit-il, en m'emmenant vers le quai. Voici notre train. J'ai retenu un compartiment, car il y a deux choses dont je tiens à bien vous en pénétrer devant le voyage. Les deux choses dont il avait à me pénétrer étaient tenues dans une phrase. Je devais me rappeler sans cesse que j'étais pour le protéger et conséquemment ne devais l'abandonner sous une seule minute. Nous touchons presque à destination, qu'il me répétait. Encore avec une nuance, une insistance qui trahissait l'ébranlement de ses nerfs. Oui, dit-il enfin, répondant à mon regard plutôt qu'à ma parole. Vous me voyez nerveux, docteur Hamilton. J'ai toujours été timide. Je le dois à ma complexion physique. Mais j'ai l'âme forte. J'affronterai un danger dans lequel frémirait peut-être un homme moins nerveux que moi. En faisant aujourd'hui ce que je fais, je n'obéis pas à un mouvement spontané, mais bien au sentiment du devoir. Et je brave un risque mortel indubitable, et que l'affaire prenne une vilaine tournure, et j'aurai quoique droit au titre de martyr. Je commençais à me sentir excédé de ce qu'ainsi l'on me proposait continuellement des énigmes. Je crus le moment venu d'en finir. « J'estime, monsieur, déclarai-je, je voudrais infiniment mieux que je sois entièrement en courant en moi. Je ne sais vraiment comment agir de façon efficace si j'ignore quel objet nous avons en vue et où nous allons. Oh, pour ce qui est du lieu où nous allons, inutile d'en faire un mystère. Nous allons à Devlot Court, résidence de Sir Thomas Rothschild, dont vous connaissez si bien l'œuvre. Quant à l'objet de notre visite, je ne sache pas que, dans l'état présent des faits, nous ayons rien à gagner, docteur Hamilton, à ce que je vous en fasse pleine et entière confiance, ni confidence. Non, non. Je puis vous dire simplement que nous agissons, j'entends par nous, ma sœur et moi, qui avons à cet égard des idées identiques, sûrement pour prévenir quelque chose comme un scandale de famille. Vous comprenez pas mon scrupule à vous donner une explication qui soit, mais pas strictement nécessaire. Il n'en irait pas de même si j'avais à vous demander votre avis. Tout ce que j'attends de vous dans le cas actuel est une aide active. Et je vous indiquerai, selon les circonstances, la meilleure façon de me la donner. Cela n'admettait pas de réplique. Aussi bien un pauvre diable peut-il se permettre pour 20 livres par jour d'enduire bien des choses. Mais le procédé de Lord Lynchmere ne m'en parut pas moins désobligeant. Il entendait faire de moi un instrument aveugle comme le bâton qu'il tenait. Je réfléchis cependant qu'un homme aussi sensible devait avoir l'horreur du scandale et me rendis compte que pour qu'il livrât entièrement à moi, il lui fallait avoir plus de trop ressources. Je devais m'en remettre à mes yeux et à mes oreilles, au soin de percer le mystère, mais je savais avec certitude ne pas compter vainement sur eux. 5 bons miles séparaient les Lord Court et de la gare de Portwood. Nous fîmes le trajet en voiture découverte. lors d'une chimère, demeura tout le temps absorbé dans ses pensées. Il ouvrit la bouche qu'au moment où nous poussions presque à destination, et ce fut pour me donner un renseignement qui m'étonna. « Peut-être ne savez-vous pas, me dit-il, que je suis médecin comme vous. » « Ah, en effet, vous me l'apprenez, monsieur. »« Oui, j'ai suivi les cours de ma jeunesse. » Alors qu'entre la Paris et moi, il y avait de la place de plusieurs existences. Je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer, mais tout de même, j'ai trouvé quelque utilité à cette éducation scientifique. Je n'ai jamais regretté les années consacrées à l'étude de la médecine. Ah, voici les portes de Delcourt. Nous étions arrivés devant deux hauts piliers couronnés de monstres héraldiques et flanquant l'entrée d'une avenue sinueuse. Par-dessus les buissons de laurier et de rhododendron, je pouvais apercevoir une longue maison à pignons multiples, ceinte de lierre, et qui avait pris le ton chaud, harmonieux et gai des vieilles briques. Mes yeux restaient fixés sur cette délicieuse demeure, quand mon compagnon me tira nerveusement par la manche. « Voilà Sir Thomas, murmura-t-il. Parlez-lui de Scarabée, autant que vous pourrez. » Un personnage, grand, mince, singulièrement osseux et anguleux, venait d'émerger d'une brèche dans la haie de laurier. Il tenait une sorte de petit sarcloir et portait de longs gants de jardinier. Sous le chapeau, au large bord qu'il ombrageait, son visage me frappa par l'air d'extrême austérité, avec ses traits irréguliers et durs et sa barbe inculte. La voiture ayant fait halte, Lord Chinchmer en descendit vivement. « Mon cher Thomas, comment allez-vous » demanda-t-il d'une voix cordiale. Mais sa cordialité n'éveilla pas d'écho. Le maître de séance l'examinait par-dessus l'épaule de son beau-frère, et je saisis des idées, des bribes de phrases. « Oh, bien connu, oh, bien des étrangers !» Un toujours, sans cause, excuse, enfin, inexplicable. Puis il eut un colloque à mi-voix entre les deux hommes. Après quoi, ils se rapprochèrent ensemble de la voiture. « Docteur Hamilton, permettez que je vous présente à Sir Thomas Rosser, » me dit Lord Lynchshire. « Vous découvrirez avec lui une étonnante variété de goûts. » Je m'inclinai. Sir Thomas, immobile et raide, m'observait sévèrement par-dessous le large bord de sa coiffure. Lord Lynchmere m'assure, fit-il, que vous avez sur les scarabées certaines connaissances. Que savez-vous donc sur les scarabées ? Eh bien, ce que j'ai appris dans votre ouvrage sur les coléoptères, dis-je. Sir Thomas, répondis-je. Énumérez-moi les espèces les plus connues des scarabées anglais. Je ne m'attendais pas à un examen en règle, mais par bonheur, j'étais prêt à le suivre. Subir. Mes réponses durent satisfaire Sir Thomas, car ses traits se détendirent. « Vous semblez, monsieur, avoir quelque profit lu de mes livres. Il ne m'arrive pas tous les jours de rencontrer quelqu'un qui prenne un intérêt intelligent à de pareilles matières. On trouve du temps pour des futilités comme le sport ou les relations mondaines, et l'on dédaigne les scarabées. Je puis vous certifier que la plupart des idiots de ce pays ne savent même pas que j'ai fait un livre, ni que j'ai le premier décrit la véritable fonction des élytres. J'ai plaisir à vous voir, monsieur. Je ne doute pas de vous intéresser en vous montrant quelques-uns de mes spécimens. » Il monta dans la voiture, et tandis que nous roulions vers la maison, il me fit part de ses récentes recherches sur l'anatomie de la coccinelle. J'ai dit que Thomas Rosler portait un large feutre rabattu sur les yeux. Il l'ôta en entrant dans le vestibule, et je m'avisai d'une particularité que son chapeau m'avait cachée. Son front, naturellement haut, qu'exhaussait encore ses cheveux rejetés en arrière, était en état de perpétuel mouvement. Par suite d'une infirmité nerveuse, ses muscles secoués d'un spasme continu, tantôt se contractaient et tantôt produisaient une sorte de remous giratoire dont je n'avais jamais auparavant vu l'analogue. Cela me frappa, sitôt qu'il se tourna vers nous en nous introduisant dans la salle d'études. Et l'effet en était rendu plus singulier encore par le contraste avec la dure fixité des yeux, gris, embusqués au fond de deux arcades palpitantes. Oh, je regrette, dit-il, que le Dirosler ne soit pas là pour m'aider à vous y recevoir. À propos, Charles, Evelyn, vous a-t-elle pas fait connaître la raison de son retour ? Ben, elle avait l'intention de rester à Londres quelques jours encore. Les dames, vous savez, pour peu qu'elles passent du temps à la campagne, ont vite leur série d'obligations mondaines. Et beaucoup de vieux amis de ma sœur se trouvent à Londres en ce moment. Oh, elle est libre. Je ne veux pas déranger ses projets, mais je serai heureux de la revoir. La maison me paraît vide sans elle. Je m'en doutais un peu. C'est l'une des raisons qui m'amène. Mon jeune ami, le docteur Hamilton, s'intéresse si vivement aux questions dont vous avez fait votre domaine que je pensais bien ne pas vous contrarier en le priant de m'accompagner. Je mène une vie retirée, docteur Hamilton, et mon aversion pour les étrangers va toujours augmentant, confessa notre hôte. Je me suis demandé parfois si mon système nerveux ne laissait pas à désirer. Mes voyages de recherche m'ont conduit dans ma jeunesse en bien des pays insalubres où régna la malaria. Mais un confrère en anthropologie est toujours le bienvenu. Vous ne serez plus le grand plaisir si vous voulez jeter un coup d'œil sur ma collection. Que je puis, je crois, sans exagération, considérer comme la plus belle d'Europe. Cela, certes, ne faisait aucun doute. Il possédait un vaste cabinet de chênes, disposé en tiroirs peu profonds, où s'alignaient, dûment classifiés et étiquetés, des scarabées de tous les coins du monde, noirs, bruns, bleus, verts, ou nuancés à l'infini. De-ci, de-là, sa main glissait par-dessus les rangées d'insectes immobiles au bout de leurs tiges, et, saisissant un spécimen rare, le maniant avec la délicatesse et le respect qu'il montrait pour une relique, il m'en détaillait les caractéristiques, me disait les circonstances qu'il en avait rendu possesseur. « Oui, sûrement. » Il ne trouvait pas tous les jours un auditeur sympathique. Et il parla jusqu'à ce que le crépuscule d'un jour de printemps, ayant fait place à la nuit noire, le gong sonnait l'heure de s'habiller pour le dîner. Lord Linchmere, cependant, ne sifflait mot, mais il ne le grittait pas d'une semelle, son beau-frère. Et je surprenais constamment que, d'un coup d'œil à la dérobée, il lui fouillait le visage. Lui-même, ses traits décelaient une émotion violente, criante, sympathie, attente. Oh, j'y savais, pouvais tout lire. Lord Lichmer redoutait et prévoyait à coup sûr quelque chose, mais en quoi consistait ce quelque chose, je n'arrivais pas à l'imaginer. La soirée se passa tranquille mais agréable. Je me serais senti tout à fait à l'aise si j'avais eu l'impression d'une tension contenue chez Lord Lichmer. Notre hôte, lui, gagnait à se faire connaître. Il ne cessait pas de nous entretenir avec affection de sa femme absente, de son petit garçon sorti récemment pour le collège. Sans eux, disait-il, la maison n'était plus la même. S'il avait su ces scientifiques, il n'aurait jamais su comment passer, tuer ses journées. Après le dîner, il nous tint un moment en compagnie dans la salle de billard, et finalement il alla se coucher de bonne heure. Alors, pour la première fois, je vins à concevoir des soupçons sur l'état mental de Lord Lynchmere. Notre hôte, une fois retiré, Lord Lynchmere me suivit dans ma chambre. Docteur, marmonna-t-il précipitamment, il faut que vous veniez avec moi. C'est chez moi que vous aurez à passer la nuit. Que voulez-vous dire? J'aime mieux ne pas m'expliquer. Ceci fait partie de vos devoirs. Ma chambre touche à la vôtre. Vous pourrez rentrer chez vous au matin, avant que le domestique vienne nous réveiller. Mais pourquoi? Demandai-je. Parce que, dit-il, le fait de rester seul me rend nerveux. C'est une raison, si vous en faut une. Fantaisie de maniaque, pensais-je. Mais l'argument de 20 livres prévalait contre bien des objections. Alors j'accompagnais chez lui Lord Lichmer. Mais la chambre n'a qu'un lit, fis-je observer. Un seul de nous l'occupera, répliqua-t-il. Et l'autre? L'autre montera la garde. En vérité, mais on croirait que vous vous attendez à une attaque. Peut-être. Mais alors, ce cas, pourquoi ne pas fermer à clé votre porte? Peut-être ai-je envie d'être attaqué. Cela confinait de plus en plus avec extravagance. Il n'y a pourtant rien à faire que de se soumettre. Je haussai les épaules et m'assis dans le grand fauteuil devant la cheminée vide. Alors je dois rester à veiller, déplorai-je. Oh, nous nous partageons la nuit. Si vous voulez, jusqu'à 2 heures, je prends mon tour tout de suite. Très bien. Vous m'appellerez à 2 heures. Oui, sans faute. Vous tiendrez vos oreilles ouvertes. Et si vous entendez le moindre bruit, vous m'éveillerez à la seconde. Vous m'entendez bien, à la seconde. Comptez sur moi. Et je m'efforçais de prendre moi aussi un air grave. Surtout, pour l'amour de Dieu, gardez-vous de dormir, conclut Lord Lichmere. Puis, ayant retiré que son habit, il resta sur la couverture, dont il supporta prendre un peu de repos. Ce fut pour moi une veillée mélancolique, et dont la mélancolie s'augmentait de ce que je la sentais folle. À supposer que Lord Lichmere eut d'aventure quelque raison de se croire en danger dans la maison de Sir Thomas Rosler, pourquoi diable négligeait-il de se protéger en verrouillant la porte? Son désir de se voir attaqué était simplement absurde. Quel motif pouvait-il avoir à désirer une attaque? Et de qui désirait-il qu'elle lui vînt? Apparemment, Lord Lichmere obéissait à une lubie singulière, dont le résultat était qu'un prétexte imbécile me privait d'une nuit de sommeil. Cependant, si déraisonnable fussent-elles, j'avais pris mon parti d'exercer ses instructions à la lettre, aussi longtemps qu'il me garderait à son service. Et je demeurai donc près de la cheminée vide, l'oreille tendue au carillon d'une pendule qui, au loin, quelque part, dans le corridor, marquait d'un gazouillis tous les quarts d'heure. Ce fut une interminable veille. Sauf la pendule, rien ne troublait le silence de la vaste maison. Une petite lampe de table où était posée à côté de moi projetait un petit rond de lumière sur mon fauteuil et laissait dans l'ombre les coins de la pièce. Et sur le lit, Lord Lichmere respirait péniblement. Oh, je lui enviais son calme sommeil. Et mes paupières s'abaissaient de temps à autre, mais toujours le sentiment du devoir me soutenait. Et je m'adressais, et je me redressais, je frottais les yeux, je me pinçais, ressenti du monde jusqu'au bout. Cette action, faction ridicule. J'ai réussi. Du fond du couloir, la pendule carillonna 2 heures. Alors, j'étendis la main sur le dormeur. Il se redressa instantanément et sa figure manifesta l'émotion la plus vive. « Vous avez entendu quelque chose ?»« Non, monsieur, mais il est 2 heures. »« Bon, ben, je prends la garde. Vous pouvez vous coucher. » Je m'allongeai sous la couverture comme il l'avait fait, et je ne tardai pas à m'assoupir. La dernière chose dont j'eus conscience, ce fut le fond de lumière et à son centre, la petite silhouette cassée en deux, la figure tirée et anxieuse de Lord Lichmere. Combien de temps je dormis, je l'ignore. Une brusque secousse à la manche m'éveillant en sursaut. L'ombre régnait dans la pièce, mais une forte odeur d'huile m'avouait et m'avertissait que la lampe venait seulement d'être éteinte. « Vite, vite !» me glissait dans l'oreille la voix de Lord Lichmere. Je bondis hors du lit. Lord Lichmere me saisit le bras. « Par ici !» murmura-t-il. Il m'entraîna vers un angle de la chambre. « Chut ! Écoutez !» Au milieu de la grande paix nocturne, j'entendis nettement des pas s'approcher dans le corridor, des pas furtifs, étouffés et intermittents, comme ceux d'un homme qui, après chaque enjambée, fais par prudence une pause. Et quelquefois, toute une minute s'écoulait sans le moindre bruit. Puis une rumeur sourde, un craquement léger, annonçait la nouvelle avance. Mon compagnon tremblait de fièvre. Sa main, cramponnée à mon bras, avait les soubresauts d'une branche dans le vent. « Qu'y a-t-il ? » chuchotais-je. « C'est lui !»« Sir Thomas ? » ?»« Oui, mais que veut-il ? » ?»« Taisez-vous ! Ne bougez pas sans que je vous le dise !» Je devinais qu'on tâtait la porte. La poignée joua presque silencieusement. Et je vis s'indiquer, long et pâle, un ray de lumière. Dans le corridor brûlait une lampe lointaine, et cela suffisait tout juste pour que du fond de la chambre obscure, l'extérieur devint visible. Puis la ray s'élargit encore, très doucement, très progressivement, et le fond de clarté se profila. Un homme. Et l'homme s'accroupissait, se tassait sur lui-même, si bien qu'on crut voir l'ombre d'un nain obèse et difforme. Lentement, la porte s'ouvrit, tout large, encadrant cette apparition sinistre. Et alors, tout d'un coup, l'homme accroupi s'élança. Oh, ce fut comme le bond d'un tigre à travers la chambre. Puis il eut trois coups en terre, frappés sur le lit, trois coups avec un objet pesant. Oh, la stupeur me paralysait. Je restais cloué, sur place. D'un cri, mon compagnon se remit à moi-même en m'appelant au secours. La porte ouverte laissa entrer assez de lumière pour me permettre de distinguer les entours des choses. Et j'aperçus le petit Lord Lynchmere qui, les bras noués au cou de son beau-frère, s'accrochait vaillamment à lui, comme un boule terrier de combat s'accroche des dents à un limier. Long et osseux, l'autre se débattait, se tenait, se retournait, cherchant à empoigner son adversaire. Mais celui-ci, l'ayant rigoureusement attrapé par derrière, ne le lâchait pas, bien qu'il montrât par ses appels épouvantés combien il jugeait la flûte inégale. J'accourus à la rescousse et nous mîmes par coucher à terre le Sir Thomas, qui, pour ma part, m'avait mordu à l'épaule. Malgré ma jeunesse, ma vigueur et mon poids, il me fallut rien moins qu'un corps à corps désespéré pour triompher de sa frénésie. À la fin, nous lui liâmes les bras avec la cordelière de sa robe de chambre. Je lui tins les jambes tandis que Lord Lynchmere essayait de rallumer la lampe. Cependant, des pas pressés résonnaient dans le corridor, attirés par nos cris. Le maître d'hôtel et deux autres domestiques firent irruption dans la chambre. Nous n'eûmes plus de peine, avec leur aide, à maîtriser notre prisonnier qui gisait sur le parquet, yeux en feu, l'écume aux lèvres. Un simple coup d'œil permettait de se rendre compte qu'on avait affaire à un fou furieux. Le lourd marteau tomba au pied du lit, attestant les intentions meurtrières. « Pas de violence !» nous dit Lord Lynchmere, dont nous relevions le malheureux qui gisait encore. Une période d'abattement suivra la crise. Tiens, on croit que la voilà déjà qui revient. En effet, les convulsions diminuèrent, la tête comme apesantie de sommeil retomba sur la poitrine. Nous transportâmes Lord Rossler dans son appartement et l'étendîmes sur le lit, inanimé, la respiration haletante. Que de hommes restent à le veiller ? Prescrivit Lord Lynchmere. Et maintenant, docteur Hamilton, ajouta-t-il, si vous voulez bien venir dans ma chambre, je vous donnerai une explication que mon horreur du scandale m'a peut-être fait différer trop longtemps. Advienne que pourra, vous n'aurez jamais lieu de regretter ce que vous aurez fait cette nuit. Et quand nous fûmes seuls, quelques mots, poursuivit-il, vous mettront au courant de toute l'affaire. Mon pauvre beau-frère est le meilleur garçon du monde, le plus affectueux des maris, le plus digne des pères. Mais il descend d'une famille marquée du sceau de la folie. Plus d'une fois déjà, il a eu des accès homicides, d'autant plus triste qu'il s'attaque de préférence aux personnes qu'il aime le mieux. Nous avons envoyé son fils au collège que pour le préserver du danger. Et il a dirigé l'une de ses tentatives contre sa sœur, contre ma femme. Il a pu s'enfuir avec les blessures dont vous avez vu les marques sur elle hier à Londres. Vous supposez bien qu'à ces heures de bon sens, il n'a de tout cela aucune conscience et qu'il rirait si on venait prétendre qu'il fût capable, en certains cas, de faire du mal aux gens qu'il aime. Une des caractéristiques habituelles de ces sortes de maladies, c'est l'impossibilité absurde de convaincre les malades. Naturellement, nous nous préoccupions avant tout de l'empêcher qu'il vînt au crime, mais l'affaire ne l'a pas toute seule. Il vit reclus et ne voit pas de médecin. Il importait cependant qu'un médecin pût avoir la certitude de sa folie, car, sauf en de très rares occasions, il est sain d'esprit comme vous et moi. Heureusement, divers symptômes signalent toujours l'approche de ces crises et nous prémunissent contre le danger. Telle est plus spécialement cette contorsion nerveuse du front que vous avez remarquée. Ce phénomène prélude régulièrement de 4 à 5 ans, 5 jours, un accès furieux. Et la dernière fois qu'il se produisit, Lady Rossler partit pour Londres sous un prétexte quelconque et se réfugia dans la maison de Bow Street. Alors il me restait à faire, devant un médecin, la preuve de la folie de Sir Thomas, condition indispensable pour le mettre hors d'état de nuire. Mais d'abord, comment faire entrer chez un médecin, chez lui un médecin ? Et je me rappelais sa passion pour les scarabées et sa sympathie pour quiconque la partage. Alors j'insérais une annonce dans les journaux et j'eus la chance de vous trouver. Il me fallait un gaillard de bonne trempe, car je savais que la folie de Saint Thomas ne pouvait se manifester que par une tentative de meurtre. Et j'avais toute raison de croire qu'elle me visait, puisqu'aux heures de crise, il a pour moi l'affection la plus invive. Cette tentative, je ne sais pas, je ne savais pas si elle se produirait de nuit, mais je présumais, car en général, ces sortes de crises éclatent vers l'aube. Bien que très nerveux, moi-même, je ne voyais aucun autre moyen de soustraire ma sœur à l'effroyable danger qui la menaçait. Je vous demande pardon si vous confiez santé à ce signe. Je ne vous demande pas si vous consentez à signer ce certificat d'aliénation mentale. Oui, sans doute, nul, mais il faut deux signatures. Mais vous oubliez que moi aussi, j'ai le diplôme de médecin. Voici le papier sur cette table. Si vous voulez bien le signer, nous pourrons dès demain emmener le malade. C'est ainsi que je rendis visite à Sir Thomas Rosslare, le fameux entomologiste. Ainsi également que je gravis le premier échelon du succès, car Lady Rosslare et Lord Linchmere sont devenus pour moi des amis fidèles. Ils n'ont jamais oublié l'aide que je leur ai fournie dans le besoin. Et Sir Thomas a quitté la maison de santé. On le dit guéri. Oh, je crois néanmoins que si je revenais passer une autre nuit à Delaware Court, je pousserai le verrou de la porte.